Bonjour, vous êtes sur Radio B, les bonnes ondes, 90.fm, dans l'émission Musique au pluriel, avec Paul Turchet, Bruno Point et moi-même. Donc, ce jour, nous allons poursuivre notre aventure avec Franz Liszt. Lors de notre première heure d'émission, nous avons rencontré un Franz Liszt altruiste, celui-là même qui propageait avec zèle les œuvres de ses prédécesseurs et même celles de ses contemporains importants et moins importants. Il les a jouées plus souvent peut-être que les siennes propres. Liszt s'est en effet, faut-il le rappeler ou le souligner encore, nourri de musique. Il admirait le génie des autres. Liszt était donc un passeur de musique et un boulimique transcripteur. Mais il composait aussi et a creusé son propre sillon. Qu'a-t-il donc sa vie durant aussi écrit? Nous allons le découvrir aujourd'hui en entrant dans le monde de ses compositions et œuvres pour piano. Mais je vais commencer avec vous, chères auditrices et auditeurs, en posant une question à Bruno Point et Paul Turchet sur l'importance que revêt pour eux Franz Liszt. Donc Paul Turchet.
Franz Liszt, pour moi, c'est un météore, une étoile filante qui traverse l'histoire de la musique. Je dirais que c'est un homme complet, non pas parfait, loin de là, qui peut le prétendre, mais complet, infatigable, admiratif des autres, passeur de musique, compositeur. Il fait exploser les limites de la virtuosité pianistique. Un homme complet.
Oui.
Une des plus belles biographies de Liszt s'intitule « La vie de Liszt est un roman ». Ce titre est parfait pour lui, car il est un véritable héros du 19e. Il aura tout essayé, tout travaillé, et il aura soutenu notamment Wagner, qui aujourd'hui est un des compositeurs phares du 19e. Donc on voit que Liszt, c'est la générosité, le génie, et vraiment la boulimie et le grand musicien et aussi l'être dans son temps, car il a épousé, un peu comme Beethoven, avec une personnalité très différente, il a épousé les pensées de l'époque, il a épousé les grandes causes de l'époque. Donc Liszt, il est dans son temps, et comme l'a dit Paul, c'est un météore qui traverse le 19e siècle. Lors de la précédente émission, nous avions beaucoup écouté justement les transcriptions, c'est-à-dire l'appétit qu'avait Liszt des musiques des autres, des musiques antérieures et des musiques du passé, parce que finalement, lorsqu'il les entendait, il les trouvait magnifiques et il se les appropriait et les reproduisait. Nous avons entre autres terminé par les études dites Paganini, c'est-à-dire que Liszt avait été suffoqué par la transcendance de Paganini au violon, parce qu'il avait apporté dans la technique et le changement qu'il avait apporté à cet instrument. Et il a procédé de la même manière pour le piano avec les études dites d'après Paganini. Mais Liszt a aussi écrit des études qui sont un socle pour les années, les dizaines d'années, le siècle qui a suivi. Ce sont les études dites d'exécution transcendante. Qu'est-ce que la transcendance? La transcendance, c'est d'abord se dépasser. Il existe de multiples définitions. Chaque philosophe parle de la transcendance. Mais c'est d'abord se dépasser. Liszt, il a voulu, avec le piano, dépasser tout ce qui existait et aller plus loin. Et lorsqu'on va plus loin, on arrive quelque part et après on rebondit et on va encore plus loin. Avec Liszt, c'est un peu comme la vie. Rien n'est fini, rien n'est jamais fini, car il va toujours plus loin. Voici une première étude, dite feu follet.
Thank you.
Le 19e siècle, c'est l'arrivée du piano moderne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les pianos sont des répliques, certes en progrès, mais des répliques du piano abouti qui est arrivé au 19e siècle avec Erhard, avec Pleyel. Et Erhard d'ailleurs prêtait ses pianos à Liszt qui en faisait la promotion. Vous voyez que le monde a peu changé. Et donc, les grands compositeurs amateurs de piano, notamment Chopin et Liszt, ont donc écrit des études. Chopin en a écrit 24. Et Liszt a écrit donc ces fameuses études dites d'exécution transcendante. Transcendante, donc, toujours pour aller plus loin, mais aussi pour dépasser, pour parler, pour mixer le physique, parce que d'abord, pour jouer du piano, il faut des mains. Donc, c'est un exploit sportif. Un peu comme un grand sportif qui va gagner des courses et toujours progresser et faire un meilleur temps aux 100 mètres. C'est tout à fait la même chose. Les grands pianistes sont des grands sportifs. Donc dépasser ses propres limites et puis aussi se retrouver derrière la frontière pour passer au mystique, pour passer au spirituel. Feu follet, d'ailleurs le titre, qu'est-ce qu'un feu follet ? Un feu follet, c'est un phénomène naturel, une petite flamme qui se déplace, mais tout de suite, l'humain lui a donné un caractère tout à fait facétieux. Imaginez que ces feux follets étaient le malin qui se déplace, le diable qui circule dans une pièce. Donc chez Liszt, nous avons ce panachage, ou cette complétude, on va dire, entre le dépassement des moyens humains, toujours aller plus loin, mais aussi avec une pensée. Nous allons maintenant écouter une autre étude d'exécution transcendante, Mazeppa. Mazeppa, c'était un grand noble russe qui était un compagnon du tsar Pierre le Grand et qui, dans sa jeunesse, avait, en tant que bel homme qu'il était, séduit la femme d'un militaire, d'un grand militaire, et s'était retrouvée punie. Et la punition, c'était d'être attachée nue sur son cheval et lâchée dans la nature jusqu'à la mort. Mais Mazeppa a survécu. Mais néanmoins, il a beaucoup souffert et nous allons l'entendre dans l'étude que nous allons écouter maintenant.
Thank you.
1834, Franz Liszt se lie avec la comtesse de Blavigny, qui s'appelle Marie d'Agoult, dans une grande passion amoureuse, puisqu'ils se rencontrent à l'occasion d'un concert dans un salon. La comtesse a 28 ans, Liszt 6 ans de moins, et quelque part il s'enfuit. C'est la naissance, c'est la genèse de la composition des années de pèlerinage. Ce pèlerin, cet infatigable passeur, intitule ce cycle les années de pèlerinage. On ne saurait mieux dire. Cycle de 3 recueils de pièces pour piano du compositeur, composées lors de ses voyages en Suisse et en Italie avec Marie. Voilà comment, et Liszt parle lui-même de cette composition, de ses compositions, d'une manière parfaite. Voilà ce qu'il dit. « À mesure que la musique instrumentale progresse, elle tend à s'empreindre de cette idéalité qui a marqué la perfection des arts plastiques, à devenir non plus une simple combinaison de sons, mais un langage poétique, plus apte peut-être que la poésie elle-même, à exprimer tout ce qui, en nous, franchit les horizons accoutumés, tout ce qui échappe à l'analyse, tout ce qui s'attache à des profondeurs inaccessibles, désirs impérissables, pressentiments infinis. C'est dans cette conviction et cette tendance que j'ai entrepris l'œuvre publiée aujourd'hui, m'adressant à quelques-uns plutôt qu'à la foule, ambitionnant non le succès, mais le suffrage du petit nombre de ceux qui conçoivent l'art pour une destination autre que celle d'amuser les heures vaines, et lui demande autre chose que la futile distraction d'un amusement passager. »
Le 2 mai 1832, Liszt écrivait dans une lettre à un de ses élèves « Voici 15 jours que mon esprit et mes doigts travaillent comme de damnés. La Bible, Platon, Locke, Byron, Hugo, Lamartine, Chateaubriand, Beethoven, Bach, Mozart, Weber sont tout alentour de moi. Je les étudie, je les médite, les dévore avec fureur. » Il a aussi consacré du temps, de l'esprit et de la sensibilité à mettre en musique des sonnets de Pétrarque. Nous allons en écouter un dont je vais d'abord vous lire la traduction française. « Je ne trouve point de paix et je n'ai pas affaire de guerre, et je tremble et j'espère, et je brûle et je suis comme une glace. Je vole au-dessus des cieux et je rampe sur terre. » Je n'étreins rien et j'embrasse le monde entier. Celle qui me tient en prison ne m'ouvre ni ne me ferme la porte. Elle ne me retient point dans ses liens ni ne m'en délivre. Amour lui-même ne veut ni me tuer ni briser mes fers, ni m'avoir en vie, ni me tirer de peine. Je vois sans yeux, je n'ai pas de langue et je crie. Je souhaite mourir et je réclame aide. Et je me hais moi-même et j'aime autrui. Je me repais de douleur, je ris en pleurant, la mort et la vie me déplaisent également. Voilà, madame, en quel état je suis à cause de vous.
Oh, Pace, morte, vita.
Nous l'avons entendu dans le texte de Liszt lui-même lu par Paul tout à l'heure, où Liszt est environné de tous les grands personnages de son temps et d'autres temps, la Bible, Platon, Byron, Hugo, Lamartine et les grands musiciens. Liszt, c'est un médium qui reçoit tout des autres et qui est à la quête d'un inaccessible absolu. Il va entrer tout ça et va nous sortir des musiques qui recueillent tout de la poésie des autres et du monde. Et c'est ainsi que ces musiques sont souvent à thème, c'est-à-dire qu'en tant que médium, il reçoit beaucoup de choses et il nous les transcrit. Ainsi, il a écrit des légendes qui, elles, sont des légendes sur la religion. Et ainsi, Saint François de Paul marchant sur les flots que nous allons maintenant écouter. dans cette œuvre, Saint François de Paul marchant sur les flots, Liszt fait une globalité de tout. Nous avons une description, nous entendions la mer, les vagues, nous voyons Saint François avancer, et puis tout cela se termine dans la délivrance d'un message, c'est-à-dire que nous ressortons dans un monde apaisé. Liszt est quelqu'un qui nous donne des messages un peu à l'image de Beethoven, d'une manière différente. Et c'est un fusionneur, il fusionne tout, les sentiments poétiques, la description, la virtuosité. Dans virtuosité, n'oublions pas qu'il y a vertu. Et Liszt est un vertueux, bien sûr, Liszt a eu une vie mouvementée, mais Liszt aspire à cet inaccessible absolu. Écoutons maintenant ce merveilleux et facile à écouter rêve d'amour que tout le monde joue, puisque c'est une des rares pièces que les amateurs en piano peuvent jouer, je dis bien une des très rares. Liszt a exploré les moyens du piano moderne, puisque le piano moderne date donc du 19e siècle. Il a eu aussi un nouvel instrument avec l'orgue. Nouvel instrument par rapport aux orgues classiques, aux orgues du temps de Bach. Eh bien, ces orgues ont évolué avec notamment le grand facteur d'orgue Cavaillé-Coll. Et au 19e, les orgues étaient beaucoup plus symphoniques. Il y a d'ailleurs de grandes oppositions entre les tenants de l'orgue baroque, de l'orgue classique et les tenants de l'orgue romantique. Liszt, lui, il est de son temps et il a un nouvel instrument symphonique. Et il va écrire des œuvres gigantesques pour l'orgue. Et nous allons écouter un extrait de Ad nos salutarem ad undam.
Entre 1852 et 1853, Liszt compose sa sonate, la seule sonate intitulée comme telle qu'il a écrite. Elle est dédiée à Robert Schumann. C'est une œuvre qui ne comporte pas de temps d'arrêt, de mouvement au sens classique. C'est une œuvre unitaire qui, selon les interprétations, dure environ 30 minutes. Qu'on a souvent surnommée la Faust sonate. Elle fait intervenir Méphistophélès, Marguerite, la rédemption, tous ces thèmes qui ont traversé complètement le XIXe siècle. Trois, néanmoins, décompositions possibles de cette sonate. Une première partie assez lente, puis allegro energico, puis grandioso. Deux thèmes qui vont s'affronter, un thème qui est une sorte de gamme descendante qu'on appelle une gamme tzigane, et puis un autre thème méphistophélique, sarcastique, le diable se moque. Ces deux thèmes vont s'affronter et vont être suivis d'un passage qui s'intitule Grandioso, grandiose, où là il y a une montée formidable, extraordinaire vers la lumière, une sorte de rédemption qui met fin à cette atmosphère obscure. Puis il y a une deuxième partie qui est une partie extrêmement calme, qui s'apparente à la pièce qu'a écrite Liszt, qui s'appelle « Bénédiction de Dieu dans la solitude », avec une pureté cristalline qui rappelle Marguerite, Gretchen en allemand, pour cette Faust symphonie, cette Faust sonate. Et puis, nous terminons cette œuvre par un allegro energico, qui veut tout dire, et qui débute par une fugue gigantesque, énorme, d'une construction invraisemblablement complexe et serrée. Puis elle est suivie d'une réexposition des deux thèmes, le thème méphistolécien, celui qui se moque, le diable, et puis la gamme tzigane descendante. Et on termine cette œuvre magnifique où Liszt a beaucoup hésité entre la faire terminer de manière très brillante, comme Mazeppa par exemple. Oui, pas du tout. Il choisit finalement, dans une atmosphère cristalline, avec des accords transparents, de la faire se terminer par une note dans les profondeurs absolues du piano, le si le plus grave du piano, qui est une sorte de point final. C'est une note qui marque la fin, après laquelle il n'y a plus rien à dire. Thank you.
Il est donc venu le temps de nous quitter et de laisser Litz pour mieux le retrouver dans un mois. Aussi, dans la prochaine émission, celle-ci sera entièrement consacrée aux compositions symphoniques ou musiques pour orchestre, voix et chœur, exprimées dans ces lieds, ou musique religieuse.
Aujourd'hui, vous avez écouté deux études transcendantes, successivement Feu Follet et Mazeppa, joué par Lazar Berman, puis extrait des années de pèlerinage au bord d'une source par Vladimir Horowitz, et le sonnet de Pétrarque dans sa version pour piano et ténor par François-Joël Thiollier et Bruce Brevert, puis la légende Saint-François de Paul marchant sur les flots par Aldo Ciccolini, le rêve d'amour par Georges Xifra, l'orgue avec Ad nos ad salutare mundam par Pierre Cochereau sur les orgues de Notre-Dame de Paris, et enfin la sonate en si mineur, un extrait, son début, avec les deux thèmes fantastiques que nous a exposé Paul, par Claudio Arrau.